Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Cyril Coutançais, notre invité, directeur de recherche au CESM, le Centre d'études stratégiques de la marine, rédacteur en chef de la revue Études marines, enseignant à Sciences Po et auteur de nombreux ouvrages dont le dernier, La relocalisation du monde, qui vient de paraître aux éditions du CNRS. Cyril Coutançais, bonjour.
Bonjour.
La pandémie de Covid-19 a exposé la fragilité de nombreux pays quant à l'approvisionnement en biens et en services essentiels ainsi qu'à la souveraineté industrielle. Elle a mis en lumière cette crise sanitaire, les interdépendances entre pays. Quelles sont les leçons à tirer ?
Les leçons à tirer, c'est une prise de conscience d'abord sur toute une série de produits qu'on n'était plus en capacité de produire chez nous. Et donc, est revenue la vieille antienne du made in France, de la relocalisation, etc. Sauf que la différence aujourd'hui, c'est que c'est possible, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore 10 ans.
Alors, qu'est-ce qui rend possible cette relocalisation qui est à la mode, on peut dire ?
Comme toujours dans ces grands mouvements, ces grandes ruptures, ces grandes évolutions, ce qui rend possible cette relocalisation, c'est la civilisation matérielle, c'est-à-dire les innovations, les inventions. Et donc, aujourd'hui, il y a toute une série de briques technologiques, comme on les appelle, qui sont arrivées à maturité, que ce soit des robots industriels avec une intelligence artificielle de plus en plus développée, que ce soit des imprimantes 3D qui vont permettre de fabriquer des produits d'un seul tenant. Je pense à, par exemple, l'hélice du chasseur de mines de la Marine nationale, l'Andromène. Elle est faite en imprimante 3D, ce qui est une révolution. Il y a 10 ans, c'était pas possible. Donc, toute une série de technos comme ça qui sont arrivés à maturité et qui rendent possible de produire au même coût dans les pays développés et dans les pays en développement.
Au même coût.
Au même coût pour certains produits, parce que ce ne sera pas le cas pour tout, parce que les robots ne peuvent pas tout faire. Dans le textile notamment, les robots ne sont pas capables de manipuler des matières souples. Et donc là, sur ce domaine-là, ce sera plus compliqué. Mais sur beaucoup de choses, la fabrication de voitures, d'avions, etc., on est en capacité de produire au même coût.
Alors, vous évoquez Cyril Coutançais et vous parlez d'une révolution copernicienne pour évoquer ce à quoi nous assistons, industrie davantage prédictive, autocorrective, en mesure de produire plus juste du premier coup, quasiment à la demande.
Oui, c'est ça. Ça, c'est la deuxième révolution. C'est-à-dire qu'il est possible maintenant de produire au même coût que dans les pays en voie de développement. Et surtout, c'est devenu nécessaire parce qu'il y a eu une révolution de la consommation qui est née avec Internet. C'est-à-dire que la génération de nos parents ou de nos grands-parents, on était beaucoup dans une consommation d'héritage. On consommait, on était assez peu informés, on consommait la même chose que ce que consommaient nos parents et nos grands-parents. Avec Internet et avec les modèles mis en place par les places de marché du type Amazon, on est habitué à avoir un grand choix de produits et en plus à être livré 24 ou 48 heures après la commande. Et si les entreprises ne sont pas en capacité de le livrer 24 ou 48 heures après la commande, eh bien le consommateur va se tourner vers une autre entreprise. Et donc pour les entreprises qui maintenant ont la possibilité de produire au même coût que dans les pays en voie de développement, c'est devenu pour elles absolument nécessaire parce que sinon le consommateur s'en va et va voir ailleurs.
Le consommateur qui dans cette politique de relocalisation finalement joue un rôle assez essentiel.
Oui, effectivement, parce que c'est ce qui rend nécessaire donc cette localisation. Et puis, le consommateur a aussi beaucoup changé. Il y a une exigence de traçabilité sur la plupart des produits. Alors, une exigence qui peut être très diverse, c'est-à-dire ça peut être pour des préoccupations de Made in France, donc plus souveraine, on va dire, des préoccupations aussi de produits qui soient plus durables. Ça peut être aussi une exigence simplement sanitaire en France, mais comme en Chine, dans pas mal de pays. Il y a toute une série de scandales sanitaires dans l'alimentation qui ont abouti à ce que le consommateur soit beaucoup plus vigilant maintenant sur l'origine, la façon dont les produits sont fabriqués. On a eu la vache folle en Europe, la viande de cheval qui était vendue pour du bœuf, etc. Donc ça, le consommateur maintenant est très vigilant et en quête de traçabilité.
Alors, Cyril Coutançais, une poupée Barbie qui voit son corps en vinyle venir de Taïwan, ses cheveux en nylon et sa peinture des États-Unis, le tout prenant la direction de la Chine pour y être assemblé, peint, l'empire du milieu ne fabriquant en propre que les vêtements. C'était un système, somme toute, plutôt aberrant. C'est fini ?
c'est en train effectivement de se terminer. Et il faut voir que ce système que j'appelle l'économie du Lego, parce que c'est un peu comme ce jeu danois où on va chercher des pièces pour assembler un produit final, ce système était rendu possible par les deux innovations qui ont permis la globalisation, c'est-à-dire le conteneur et le porte-conteneur, qui permet de réduire les coûts de transport par voie maritime de ces objets, et puis les câbles en fibre optique et Internet, donc qui permettent de commander, de contrôler la production qui se fait dans des pays lointains. Et effectivement, pendant tout un temps, c'était très rentable d'aller commander tel composant en Chine, tel composant en Corée, tel composant au Brésil, et puis de tout faire assembler dans l'atelier du monde chinois pour le réexporter ensuite. Maintenant, les coûts salariaux ont augmenté en Chine. Et puis, il y a eu une concentration au niveau des équipementiers, dont l'exemple patent est le marché des puces électroniques. Il y a encore 10 ans, on avait toute une série d'acteurs dans le monde, aux États-Unis, en Europe, en Asie. Aujourd'hui, on a TSMC à Taïwan et Samsung en Corée du Sud, et c'est à peu près tout. Et là, les prix sont forcément beaucoup plus élevés.
Alors, Cyril Coutancet, c'est la 5G qui permet le produire à la demande?
Oui, c'est la 5G qui va permettre de connecter en fait toutes les nouvelles innovations que j'évoquais, imprimantes 3D, les robots qui sont de plus en plus autonomes. La 5G, en fait, son innovation majeure, et c'est pour ça que c'est un enjeu avant tout industriel, son innovation majeure, c'est la réduction de ce que l'on appelle le temps de latence, c'est-à-dire le moment qui se passe entre l'ordre que vous donnez et l'exécution par la machine. Avec la 4G, il y avait un temps de latence qui était beaucoup trop important pour des chaînes de production. Avec la 5G, il est réduit et il permet d'assurer une production efficace. Et puis l'autre apport de la 5G, c'est le débit. C'est-à-dire qu'auparavant, avec la 4G, pour un robot, vous étiez obligé de le câbler parce qu'il n'y avait pas assez de débit sinon. Avec la 5G, vous allez pouvoir avoir un robot autonome dans votre usine parce qu'il y a un débit suffisant. Et donc c'est un enjeu avant tout industriel et ça explique tout l'arrière-plan qu'il peut y avoir sur les affrontements Chine, États-Unis, etc. autour de cet enjeu. Parce qu'à partir du moment où la 5G va concentrer l'ensemble des processus industriels d'une usine, les processus de fabrication, les secrets de fabrication aussi, on ne veut pas que ça tombe entre n'importe quelle main.
Il y a un véritable enjeu géopolitique à propos de la 5G. Cyril Coutancet, on a donc raison, en tout cas c'est légitime, de se méfier, de se poser des questions, de savoir à qui on va demander de nous fournir en 5G.
Oui, c'est légitime, quelle que soit d'ailleurs la nation dans le monde. On voit bien que la Chine fait appel à son opérateur national Huawei pour la 5G, parce qu'elle est consciente que c'est mieux que ce soit un opérateur propre qui s'occupe de ça. Et ben, en Europe, en plus, la chance qu'on a en Europe, c'est qu'on a deux opérateurs. On a Nokia, donc, qui est finlandais, et puis Ericsson, qui est suédois. On a deux équipementiers qui sont en capacité de nous fournir de la 5G. Donc, autant jouer la préférence communautaire. Et puis, on a des entreprises voilà, qui font partie d'États membres, autant jouer avec eux.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Alors, on va essayer de comprendre aussi ce que change le produire local dans les rapports de force. Mais d'abord, cette question, Cyril Coutancet, est-ce que c'est la fin de l'atelier chinois?
C'est déjà la fin de l'atelier chinois, ça fait déjà quelques années, puisqu'il y a toute une série de fabrications, d'usines qui ont quitté la Chine. Je pense notamment au textile. Il y a encore 10 ans, le textile était massivement produit en Chine. Aujourd'hui, c'est plutôt Bangladesh, Pakistan. Et puis, il y a un autre mouvement qui a joué aussi. C'est quand il y a eu toute une série de tensions autour des îles Senkaku, entre le Japon et la Chine. Il y a pas mal de donneurs d'ordre japonais et de Corée du Sud qui ont décidé de transférer leurs usines au Vietnam, en Inde. Alors, à la fois parce qu'il y a des coûts salariaux qui sont plus attractifs, et puis ça évite quand même d'être trop dépendant du grand voisin chinois. On peut diversifier sa production.
Est-ce qu'il faut s'attendre, Cyril Coutancet, à un phénomène massif des relocalisations?
On a un phénomène de localisation de la production. Donc, en gros, c'est en Asie, on produit pour l'Asie. Aux États-Unis, on va produire pour la zone Amérique. Et en Europe, on va produire pour la zone européenne. On a un phénomène, effectivement, qui va être important. Alors, ça va dépendre des secteurs, par contre. Parce que le textile que j'évoquais, ça va être compliqué, aujourd'hui encore, de fabriquer chez nous. Mais vous voyez, sur la construction automobile, par exemple, en Europe, 90% des voitures qui sont destinées au marché européen sont fabriquées déjà sur le sol européen ou à proximité. Au pire, ça va être au Maroc, du côté de Tanger. Donc, on a un mouvement de localisation de la production au plus proche du consommateur. C'est ça, surtout, le mouvement et la tendance de fond.
Est-ce que, alors précisément, ce mouvement de relocalisation peut engendrer un changement dans les rapports Nord-Sud ?
Alors ça, de toute façon, ça va entraîner un changement, puisque en fait, la globalisation, c'est quoi ? C'est le bon vieux schéma des avantages comparatifs. Donc, il y a certains pays qui vont se spécialiser sur telle production, etc. Aujourd'hui, qu'on n'est plus sur un système, enfin, on entre dans un système qui n'est plus sur de l'assemblage de composants qui viennent de partout. Pour certains pays du Sud, ça peut être plus compliqué. Mais après, dans la grande ère Europe-Afrique, il y a toute une série de productions qui était faite auparavant en Asie, que l'on va transférer sur la rive sud de la Méditerranée. On le voit déjà pour le textile, vous voyez, Zara, 50% de sa production destinée à l'Europe est faite dans la zone Europe-Méditerranée, puisqu'ils ont des sites de production au Maroc, en Turquie, etc. Donc, il peut y avoir des gains aussi à ce niveau-là.
Alors, dans cette évolution peut-être des rapports entre le Nord et le Sud, j'ai cette question à propos de la Chine qui mène une politique depuis plusieurs années et ça ne fait qu'aller croissant avec le projet des routes de la soie. Est-ce que précisément la Chine a compris quelque chose avec ce projet-là par rapport à ce phénomène de relocalisation et de déclin de l'atelier chinois qu'on évoquait à l'instant ?
Il y a surtout une volonté, parce que la Chine est déjà une grande puissance et veut s'affirmer comme une grande puissance, une volonté d'assurer ses approvisionnements essentiels, notamment en hydrocarbures. Il faut savoir que 90% des hydrocarbures chinois proviennent du golfe arabo-persique. Et ça, quand vous êtes une puissance qui veut compter, il ne s'agit pas que cet approvisionnement puisse être coupé du jour au lendemain. Donc, vous avez effectivement des routes de la soie, des points d'appui pour la marine chinoise qui vont permettre, quels que soient les moments de tension, quels que soient les conflits potentiels, de pouvoir assurer un approvisionnement. Puis, il y a une diversification aussi, et ça, c'est tout à fait impressionnant, des approvisionnements chinois, parce que maintenant, vous avez du point de vue des hydrocarbures, vous avez des gazoducs qui viennent d'Asie centrale, il y a la route arctique aussi qui est en train de naître. Mais après, sur la route de la soie, la route terrestre de la soie, par exemple, on met souvent en exergue la voie de chemin de fer entre la Chine et l'Europe. Mais un train, en fait, sur cette voie-là, il transporte 41 conteneurs. Un navire porte-conteneurs, c'est 20 000 conteneurs. Donc ça ne concurrencera jamais le trafic maritime. C'est plus pour quelques produits ponctuels, mais c'est pas ça qui va entraîner une révolution.
Alors parmi les discours, et c'est peut-être les modes de résistance hein, de l'ancien monde par rapport au nouveau monde qu'on est en train d'évoquer, il y a la question à propos des relocalisations, un, de l'emploi, deux, de l'environnement. Cyril Coutancet.
Alors du point de vue de l'environnement, à partir du moment où vous produisez à la demande, vous êtes gagnant du point de vue d'un développement plus durable. C'est-à-dire qu'auparavant, et encore aujourd'hui, on est sur un système où on produit en espérant vendre. L'exemple typique, c'est le textile, où on a eu divers scandales avec des collections entières qui étaient brûlées, jetées, etc., parce qu'elles ne trouvaient pas preneur. À partir du moment où vous êtes en capacité de produire juste après la demande du consommateur, vous ne produisez que ce qui a été acheté. Donc ça fait un gain en matière première. Qui est quand même pas négligeable. Sur l'impression 3D, on fait des gains en matière première aussi, puisque dans l'usinage habituel, vous avez, je caricature, mais vous avez un bloc d'aluminium et vous allez dessiner les contours et donc ce qui reste, les ferrailles existantes vont être potentiellement réutilisées, mais pas forcément. Donc vous avez un gain du point de vue environnemental, d'un développement plus durable. Du point de vue de l'emploi, pour nous, pays développés, notamment l'Europe, qui avons quand même perdu pas mal d'industries, en retrouver, ça va de toute façon être un gain en termes d'emploi. Parce qu'on n'en a plus, on en aura de nouveau. Ça n'embauchera pas autant de personnes qu'auparavant, parce que les usines ne sont pas les mêmes et ont moins besoin d'employés qu'auparavant, parce qu'elles sont plus automatisées. Mais il y a aussi tous les services qui auront autour des usines, que ce soit la restauration, la logistique, le transport, etc., qui vont aussi créer des emplois.
Est-ce que la relocalisation peut se résumer à un retour d'entreprise partie ailleurs, ou ça s'inscrit dans un contexte plus général, avec un mouvement vers vraiment autre chose, Cyril de Tancey?
Non, c'est pas un retour, c'est on localise vraiment les sites de production au plus près des consommateurs. L'exemple type, sans doute, c'est aujourd'hui Tesla. Tesla, ils ont donc, pour les voitures électriques, ils ont une usine de production aux États-Unis qui sert le consommateur américain. Ils ont une usine de production en Chine qui sert le consommateur chinois. Et ils ont une usine de production qui est en train de voir le jour à Berlin qui va servir le consommateur européen. On est exactement sur ce modèle-là. Airbus, c'est pareil. Airbus, par exemple, dans la grande confrontation, là, le litige Boeing-Airbus entre États-Unis et Europe, Airbus a finalement été très peu affecté. Pourquoi ? Parce que ils ont des usines de production en Europe, mais ils ont aussi une usine de production d'avions aux États-Unis qui sert le marché américain, les compagnies américaines. Donc on va sur ce modèle-là. On se localise dans chaque grande aire régionale.
Est-ce que ça veut dire la fin de la globalisation d'une certaine manière, ou en tout cas la fin de la globalisation telle qu'on l'a connue jusqu'à présent ?
Du point de vue de l'industrie, ça c'est très clair, ça prendra 15 ans, 20 ans, ce sont des temps longs toujours, mais ça c'est très clair. Après, il y a des choses qui ne changeront pas du point de vue de la globalisation, c'est les matières premières, le cacao, la France là, ou notre café du matin, on importera toujours le café du Brésil ou d'ailleurs, le blé français s'exportera toujours dans des pays qui ne sont pas en capacité de faire pousser du blé. Et il faut bien avoir en tête que 50% des échanges du transport maritime, c'est du transport de matières premières. Donc ça restera quelque chose d'important et d'essentiel. Et puis, il y a tout ce qui est les échanges immatériels, la R&D, etc., la comptabilité qui peut se faire en Inde ou ailleurs. Donc ça, c'est un mouvement, les services, on va dire, ça c'est quelque chose qui perdurera encore.
Alors, j'en reviens à la Chine, Cyril Coutancey. Elle a été la Chine grande gagnante de la troisième phase de la globalisation. Il faut dire qu'elle a fait beaucoup pour ça, contrairement à la France, par exemple, qui n'a pas su miser sur les ports. À quel type de réaction peut-on s'attendre de la part de la Chine, menacée dans la position qu'elle a acquise aujourd'hui à travers ce phénomène de relocalisation ?
Ce qu'il faut bien voir, je différencie toujours les dirigeants chinois, Xi Jinping, et la population, parce qu'en fait, on a souvent vu d'Europe, on confond tout ça, et en pensant que la population chinoise suit de toute façon, n'a aucun recul sur le pouvoir en place. La population chinoise est effectivement fière de voir son pays à nouveau compter dans le monde, mais ceci dit, il y a aussi des grandes inquiétudes, et puis une nouvelle génération qui est pas forcément calée avec ce que souhaite le parti, alors pas forcément d'un point de vue politique, mais là je voyais encore récemment, les réseaux sociaux chinois se sont enflammés autour du droit à la paresse,
oui.
Ce qui n'est pas du tout dans les canons du parti. Et d'ailleurs, ça a été effacé rapidement. Il y a une question aussi, on l'a vu là encore dernièrement, une question démographique en Chine, puisque le parti a abandonné la politique de l'enfant unique. Pour autant, les jeunes Chinois n'ont pas fait plus d'enfants. Il y a des problèmes au niveau intérieur qui sont importants, avec une difficulté à se loger, avec des études qui coûtent très cher. Le parti récemment aussi, le Parti communiste chinois, a lancé un ballon d'essai pour dire qu'il faudrait sans doute allonger la durée de travail. Actuellement, la retraite est à 60 ans. Il voudrait faire travailler la population un peu plus longtemps. Résultat, les réseaux sociaux chinois se sont enflammés. Donc, il y a aussi une dichotomie. La Chine n'est pas univoque. Ce qui est sûr, par contre, c'est que aujourd'hui, Xi Jinping, et ça c'est une véritable rupture par rapport à ce qu'on avait connu auparavant, on avait une sorte de démocratie à l'intérieur du Parti communiste chinois. On avait en plus une alternance. On avait souvent quelqu'un du groupe de Shanghai, on va dire, Jiang Zemin par exemple, qui succédait ou qui précédait quelqu'un qui était plutôt affilié au Garde Rouge. Hu Jintao était de cette faction-là. Donc ça faisait un équilibre. Et puis ça permettait aussi à la population chinoise, finalement, quand elle n'était pas contente, de dire « Ah bah tiens, il y a un autre qui va arriver. » Donc là, on a une vraie rupture, parce que Xi Jinping, manifestement, veut rester et rester longtemps. Et le problème qu'il y a quand on n'est pas en capacité de faire se succéder des dirigeants, c'est que quand il y a des difficultés internes, si on ne veut pas changer de dirigeant, eh ben on peut être tenté de se lancer dans des aventures extérieures. Ça s'est déjà vu, parce que les îles Senkaku, par exemple, quand il y a eu une crispation autour de ces îles, c'était très lié à un congrès du Parti communiste chinois qui était compliqué. Donc voilà le risque, en tout cas, qui peut poindre.
Merci Cyril Coutancet. Je rappelle le titre de votre livre, La relocalisation du monde, paru aux éditions du CNRS. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. À samedi prochain.